Patricia Martin, votre invitée à présent, c'est la romancière Muriel Barbery pour son dernier livre, Une rose seule, on reste dans les jardins, Une rose seule, parue aux éditions Actes Sud.
Bonjour Muriel Barbery.
Bonjour Patricia.
Je ne sais pas si c'est le personnage principal du livre, en tout cas il y tient une grande place, c'est le Japon, le pays qu'est le Japon et son art également des jardins. C'est un pays que vous connaissez bien, dans lequel vous êtes allé souvent?
J'y ai vécu pendant 2 ans à Kyoto, en 2008 et en 2009.
Donc
et
après l'apparition de l'élégance du hérisson.
Grâce à l'élégance du hérisson, j'ai pu aller vivre 2 ans au Japon. Et puis ensuite, j'y suis retournée aussi souvent que je l'ai pu. J'y passe une grande partie de mon temps, moins en ce moment évidemment, mais avec toujours le même émerveillement et toujours la même passion qui ne faiblit pas.
Pour le Japon, alors pas en général, mais essentiellement pour Kyoto d'ailleurs.
J'aime tout le Japon, J'y ai des souvenirs extraordinaires, mais aucun endroit ne me fait la même impression que Kyoto. Je ne suis éblouie de cette façon-là nulle part ailleurs.
Mais qu'est-ce qui vous éblouit à Kyoto?
Justement, je ne sais pas.
C'est pour ça que vous avez mis des années finalement à trouver comment aborder ce sujet-là. Et comment écrire sur Kyoto?
Comment écrire sur Kyoto? D'abord, c'était très difficile de trouver le point d'entrée. Ensuite, j'avais très peur d'être en deçà de la tâche. J'ai une telle révérence pour cette cité, et en particulier pour ses jardins, que l'idée de les profaner par des descriptions qui ne leur feraient pas honneur me terrifiait.
Mais alors, c'est drôle parce que là, on pourrait croire que tout Kyoto est absolument splendide, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a une partie, enfin, je ne sais pas, j'y suis jamais allée, mais je vous suis dans ce que vous nous montrez. Il y a aussi une partie qui est assez laide.
Mais le Japon contemporain, c'est un entrelac de fils électriques, de béton, d'enseignes au néon. C'est effectivement très très moche. Mais il y a à Kyoto ces 600 temples et jardins qui sont coincés entre la ville moderne et les montagnes et qui sont le souffle de l'ancien Japon, toujours vivace,
dont le Ryonji, je crois, que vous comparez à un bac à litière, parce qu'en fait, moi je suis allée regarder sur internet, je suis allée regarder à quoi ça ressemblait. En fait, c'est un jardin sec, c'est un jardin dans lequel il y a du gravier essentiellement.
Oui, c'est du sable assez épais qui est rainuré, ratissé avec art par les moines zen. Et où se trouvent des pierres nues, vaguement entourées de mousse. Alors je me dégage de toute responsabilité quant au propos de mon héroïne.
C'est ça, pour votre moi, héroïne, c'est pas vous, bien sûr.
Non, pour
c'est
moi, l'Orient-Ji demeure un des endroits les plus extraordinaires et insensés au monde.
Alors, votre héroïne, précisément, donc Rose, c'est une jeune femme qui a à peu près 40 ans, qui est très en colère. Elle est en pétard contre son père, essentiellement. Enfin, contre sa mère aussi, mais contre son père beaucoup.
Oui, contre le monde entier.
Contre le monde entier, contre elle-même d'ailleurs aussi.
Contre elle-même, contre ce qu'elle ne comprend pas en elle. Elle a une quarantaine d'années et elle n'a jamais connu son père, qui est japonais. On apprend que sa mère a quitté cet homme avant qu'elle ne naisse. Sa mère est morte et lui vient de mourir et elle est appelée à Kyoto pour entendre le testament de ce défunt inconnu.
Alors, le testament de ce défunt inconnu, d'ailleurs à ce sujet vous écrivez, parce que c'est quand même vous qui écrivez, Muriel Barbery, de quoi le deuil est-il le plus difficile, de ce qu'on a perdu ou de ce qu'on n'a jamais eu?
Mais oui, c'est la question que Rose va se poser pendant toutes ses pérégrinations dans la ville, puisque pendant très longtemps elle a été persuadée qu'il était impossible de faire le deuil de quelque chose qu'on n'a jamais reçu. Et elle va apprendre peu à peu à donner.
Alors il y a l'ouverture évidemment de ce testament qui est le clou du livre, qui est un très très beau passage, chapitre, mais avant ça il y a tout un cheminement en fait, c'est-à-dire qu'il y a le cheminement de la transformation, de sa métamorphose.
Oui, je savais.
Géographique et intérieur.
C'est ce qu'a été Kyoto pour moi, c'est-à-dire un éblouissement lié à mes promenades dans la ville, qui était à la fois esthétique mais spirituelle aussi. Et c'est ce qui se produit pour Rose. Son père a tracé pour elle un itinéraire dans la ville qui est l'itinéraire de mes éblouissements à moi.
Ce qui est un cadeau magnifique en fait qu'il lui fait.
Ce qu'elle va comprendre peu à peu, mais au début elle est juste déconcertée et presque égarée dans cette culture totalement autre qu'elle ne comprend pas mais qui lui parle.
C'est une femme congelée, lui dit un homme qu'elle croise.
Oui, c'est le personnage qui lui dit ça, c'est un vieux potier, poète, calligraphe, ivrogne, qui est probablement le seul dans l'histoire à dire à Rose des vérités bien senties, puisque autour d'elle, tout le monde, l'intendante de son père, le chauffeur, l'assistant, sont très précautionneux, et lui n'y va pas par quatre chemins.
Est-ce que vous diriez, alors, tout se fait à l'envers dans sa vie, mais elle finit effectivement par se retrouver. Est-ce que vous diriez que c'est un roman initiatique ?
Oui, je pense. Oui. C'est un roman initiatique, et pour cette raison, parce que je voulais montrer la métamorphose d'une femme qui passerait de l'ombre à la lumière. Le texte est assez court, resserré. Il fallait juste, ce que je souhaitais faire, c'était simplement capter le point de basculement, le moment où quelqu'un bascule de la douleur vers le plaisir, de la souffrance vers une forme de rédemption, ou en tout cas de bonheur.
Et les Japonais, c'est un peuple vraiment à part, avec déjà rien que sa capacité de résilience, qui est absolument incroyable.
Oui, j'ai toujours été frappée par la manière dont les Japonais, perdus sur leur archipel, secoués de tempêtes, de cataclysmes, d'adversités, gardent une forme presque de candeur et d'innocence qui est très impressionnante.
Aux humains, il se trouve que dans ce livre, Muriel Barbery, Une rose seule, vous écrivez que Rose, aux humains, préférait les chats. Et je crois bien qu'il y a là un pont avec un autre livre, il paraît, de vous, illustré par Maria Guittard, aux éditions de l'Observatoire, Les chats de l'écrivaine. Alors, vous y parlez de vos chats, ils sont quatre, ils se présentent à tour de rôle, quatre chartreux, qui disent tous d'ailleurs, si vous faites l'unanimité, que sans eux, vous ne seriez pas l'écrivaine que vous êtes. On dit toujours que les chartreux ont un caractère particulier.
Oui, ils sont quand même très incisifs, parce que mes chats réclament des droits d'auteur. Ils en ont assez de m'assister matin après matin, sans autre récompense que quelques croquettes. Et donc ils revendiquent la part qui leur revient.
Mais ils sont sympas, non ? Ils sont sympas à vivre ?
Ils sont merveilleux.
Ils sont merveilleux, c'est vrai ?
Oui, ils sont vraiment merveilleux, raison pour laquelle j'ai accepté que Maria leur croque le portrait.
Ah ben, elle le croque très bien.
Et j'ai écrit un petit texte pour les illustrations de Maria.
Merci beaucoup, Muriel Barbery. Donc, il y a ce livre paru aux éditions de l'Observatoire avec vos chats, et puis chez Actes Sud, Une rose seule. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et bonne journée.